Bonjour, mesdames et messieurs. Merci beaucoup d'être là avec les rayons de soleil qui sont enfin sortis ce matin. On est bien contents. On va justement parler de la température en deuxième heure d'émission. Je vais vous demander si elle a un impact sur votre humeur. On le sait, hein? Ce qui nous amène à discuter de ça, on va en parler, mais un peu plus en détail avec notre biométéorologue Gilles Briand, qui d'ailleurs aujourd'hui fait l'analyse un peu de ce qu'on a eu et de ce qui s'en vient en matière de climat. Vous savez que le temps change, ça on le sait. Ce que va nous dire également Gilles, et puis vous l'avez peut-être entendu dire également par un des psychiatres qui a expertisé Alexandre Bissonnette, le tueur présumé de l'attentat à la mosquée de Québec, c'est que finalement, il y avait une partie de... Bon, évidemment, on est dans les supputations, là, mais pour la première fois, on entendait un psychiatre dire probablement que ça s'est passé aussi en raison de la couleur du temps. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai trouvé ça très particulier comme raison pour expliquer, d'un point de vue médical, ce qui aurait pu amener quelqu'un à commettre un geste criminel à cause de la couleur du temps. Comme quoi, le temps peut effectivement nous rendre très, très mauvais. Mais évidemment, on espère que la plupart des gens sont sains d'esprit et ont le soleil dans leur tête la plupart du temps. On verra ça tout à l'heure avec Gilles Briand. On va également recevoir Denis Bouchard, comédien que vous connaissez bien, qui présente une pièce de théâtre dans une chambre de soins palliatifs au CHUM. Ça a une bonne intention, c'est pour la campagne de financement du CHUM. Et c'est une pièce qui nous parle de la fin de vie, mais c'est une comédie. Alors, je vous rassure tout de suite, avec Denis Bouchard, ça ne peut pas être plate. En première heure d'émission, parce que c'est le 1er mai, fête des travailleurs, on voulait revenir sur la question du salaire minimum. Vous savez que le salaire minimum passe aujourd'hui à 12 $ de l'heure. On a entendu toutes sortes de choses là-dessus. Vous savez que nos voisins ontariens, eux, l'ont amené à 14 $. Il y a eu une espèce de campagne de peur en Ontario qui se poursuit d'ailleurs. Chez nous, ben, bon, peut-être pas campagne de peur, mais certainement gros bémol de la part, entre autres, de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Sa vice-présidente principale est avec nous, Martine Hébert. Merci d'être là.
Merci à vous de l'invitation.
Julien Desgnaux est porte-parole de la campagne 15+. Merci, Julien.
Bon matin.
Pierre-Antoine Harvey, chercheur associé à l'IRIS. Bonjour, Pierre-Antoine.
Bonjour.
Je vais commencer par vous parce que c'est très intéressant. Vous avez publié une étude où, justement, vous remettez en contexte un peu cette augmentation du salaire minimum au Québec. J'aimerais que vous nous parliez des grandes lignes de ce que vous avez analysé.
Oui, bonjour. Alors, on a, à la demande de certains partenaires, fait une analyse de l'impact d'une augmentation du salaire minimum à 15 $. On sait que plusieurs acteurs sociaux le demandent. D'un côté, il faut regarder, oui, les impacts négatifs, mais il y a aussi des impacts très positifs pour les travailleuses et travailleurs à bas salaire. Et ce qu'on s'est rendu compte dans l'étude, c'est que les impacts positifs dépassaient de 9 à 11 fois les impacts négatifs. Et sur l'ensemble du territoire, là, on parle d'une injection de 2,2 à 3,4 milliards de dollars dans la masse salariale des travailleurs et travailleuses à bas salaire.
Donc, pour vous, vous dites, c'est une bonne chose, finalement, que cette augmentation de salaire minimum qui va toucher à peu près 220 000, 230 000 Québécois, surtout des femmes, d'ailleurs. Vous dites, c'est faux de dire que ça va avoir un impact négatif.
Oui, bien écoutez, au niveau global, là, si on regarde les inconvénients et les avantages,
ouais.
Les avantages dépassent grandement les inconvénients. Et on se dit que c'est une bonne politique. Et l'autre élément qu'on a regardé, c'est est-ce que l'impact aurait lieu dans l'ensemble des provinces, des régions du Québec,
ouais.
Ou seulement dans les grands centres. Et ce qu'on se rend compte, c'est que c'est un avantage qui se répartit sur l'ensemble du territoire. Et oui, le salaire minimum, c'est un coût pour les employeurs, mais il ne faut pas oublier que les salariés sont aussi des consommateurs et des consommatrices. Donc, une fois qu'ils ont reçu leur chèque de paie, ben, ces gens-là vont dépenser et c'est de l'argent qui est réinvesti dans l'économie locale. Et ça fait rouler l'économie.
Est-ce que c'est ça votre point de vue? Est-ce que vous dites, dans le fond, il ne faut pas voir ça comme une dépense, il faut voir ça comme un réinvestissement éventuellement à terme parce que ces gens-là qui vont avoir accès à, disons, on parle de 3 300 $ en moyenne pour les ménages, ils vont est-ce que vous considérez qu'ils vont forcément le réinvestir dans l'économie en achat de biens et services?
Oui, mais écoutez, c'est les ménages à faible revenu sont des ménages qui consomment 100% de leurs revenus disponibles. C'est pas des ménages qui ont les moyens de placer de l'argent aux Bahamas, là. Donc tout va revenir dans l'économie locale et on parle de choses simples là, comme avoir une épicerie un petit peu plus substantielle, des fois peut-être se payer un restaurant de plus, une sortie avec les amis. Donc c'est vraiment des choses qui vont bénéficier aux commerces locaux.
Faut pas virer fou non plus, c'est juste 3 000 $ là. Ça change 3 000 $ par année. Là.
Oui, 3 000 $ par année, ouais. Mais quand on vit avec un revenu
c'est
autour
sûr.
De 18 000 $ 20 000
Mais je pense pas qu'on aille beaucoup au resto, c'est ça que je veux dire. Je suis pas sûr que ça soit leur première dépense.
Non, c'est souvent quand on leur demande...
ça va peut-être de te payer leur dette, par exemple.
Payer leur dette ou d'avoir une épicerie un petit peu plus substantielle là, et acheter des patins ou des nouveaux pantalons...
Donc vous, c'est ça qui vous inquiète pas. Vous dites, de toute façon, on va tout ramener... dans l'économie du Québec. Donc, c'est fou de considérer que ça va être un poids pour les entreprises?
Bien, sans dire que c'est tout bon, quand on fait une politique publique, il faut regarder les deux côtés.
Ouais.
Et dans ce cas-ci, les avantages dépassent grandement les inconvénients.
Bon, évidemment, Julien Desnieux, vous êtes porte-parole de la campagne 15+. Rappelez-nous un peu ce que vous voulez faire avec cette campagne. Pour vous, 12 $, c'est un début, mais éventuellement, il faudra aller à 15 au Québec. L'Ontario s'est rapproché de ça. On a entendu toutes sortes de choses en Ontario, comme quoi ça allait mettre à pied énormément de gens, que ça allait créer des pertes de plusieurs dizaines de millions. Votre opinion là-dessus, Julien Desnieux?
En fait, c'est ça. Nous, depuis 3 ans, on a mis sur pied une campagne de terrain où on s'implique dans les milieux de travail, puis dans différents comités d'action, dans différents quartiers de Montréal. Visiblement, bon, ça a eu un impact parce que l'augmentation qu'on vient d'avoir, qu'on a eue l'année passée, puis qu'on a eue cette année aussi, de 20% du salaire minimum, c'est le résultat de la lutte, le résultat de la pression qu'il y a eu durant les dernières années. Puis là, ça, on est très fiers de ça, sauf qu'on est encore en dessous du seuil de pauvreté. On est encore dans une situation où des gens qui travaillent à temps plein au salaire minimum, sont dans la pauvreté et ne peuvent évidemment pas épargner, peuvent évidemment difficilement s'en sortir. De ce point de vue-là, comme on l'a vu ce matin justement avec le prix de l'essence, là, tout augmente sauf nos salaires. Donc là, nous, on se bat pour un 15 $ maintenant, indexé au coût de la vie, comme il s'est passé en Ontario depuis justement là, 2 ans là, avec l'arrivée de Kathleen Wynne là-bas. Eux s'en marchent vers le 15 $ l'année prochaine, tout comme l'Alberta, tout comme la Colombie-Britannique, tout comme le fait que d'ici un an, il y a 60 % des Canadiens et des Canadiennes qui vont gagner 15 $, où là, bon, on a le Québec qui est à la traîne par rapport à ça. Nous, on se dit qu'il faut continuer de se battre pour un 15 $. On invite les gens à nous contacter justement à la campagne 15plus.org. Et puis, bon, par rapport à ça, là, par rapport au fait que vous parliez...
Ben parce qu'il y a aussi, ben je disais, tous ceux qui disent, qui font partie un peu de cette campagne de peur, appelons-la comme ça. Je pense à la Banque TD, par exemple, qui a dit ça va créer une perte de 80 à 90 000 emplois en 10 ans, d'ici la fin de la décennie. Là. Donc, d'ici 2020, c'est pas rien, là. C'est 90 000 emplois évalués. Bon, le Centre canadien d'analyse économique a évalué, lui, jusqu'à 185 000 emplois qui pourraient être menacés. On connaît bien Alain Bouchard de l'alimentation Couche-Tard, là, des dépanneurs Couche-Tard, qui en ont en Ontario. Il dit que lui, il devrait fermer des commerces en Ontario parce qu'il pourra pas payer son monde à ce taux horaire-là. C'est un peu le discours, finalement, de Martine Hébert et de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Martine, c'est que vous dites, à un moment donné, c'est parce qu'on peut pas payer des montants aussi substantiels.
Allons-y avec le gros bon sens. Si on augmente le salaire minimum là, de 25 % comme ce serait là, de passer de 12 à 15, OK?
Ouais.
Si on augmente, pensez-vous que les employeurs devront pas réagir à ça? Puis pensez-vous que cette augmentation-là va se limiter seulement aux travailleurs au salaire minimum? Ça va créer une pression à la hausse dans le commerce de détail, par exemple, sur le salaire moyen d'environ 80 % des travailleurs. Fait qu'il y a certains secteurs d'activité qui vont être très touchés et très affectés, puis ils vont devoir compenser ailleurs. Et d'ailleurs, vous parliez d'Alain Bouchard tantôt, ils l'ont dit. D'ailleurs, il y a des joueurs majeurs qui ont dit, écoutez, nous, on va mettre plus de caisses automatiques, on va remplacer, tu sais. Fait que l'étude, comme l'étude de l'IRIS, c'est intéressant, mais ça nous montre un portrait, une espèce de Polaroid dans le temps. Mais c'est pas des modèles dynamiques. C'est-à-dire qu'il y a un effet feu de paille. C'est vrai qu'à court terme, là, tu sais, à un moment donné, s'il y a plus d'argent, les gens vont consommer plus, mais c'est un effet feu de paille parce que ça prend pas en compte les ajustements que les employeurs vont faire à moyen et à long terme. Et c'est pour ça que les modèles en économie qu'on appelle les modèles dynamiques permettent de prendre en compte les facteurs sur non seulement les emplois, mais sur les heures travaillées, sur le PIB, sur le prix des produits, sur l'inflation, etc., etc. Donc, ça, quand on regarde ces modèles-là, ils nous disent qu'à court terme, il y a une espèce de fait feu de paille, mais qu'à moyen et long
vous
terme...
Pourquoi vous dites feu de paille?
Ben parce que ça dure pas. Parce que le temps que les employeurs s'ajustent dans l'économie, après ça, ils coupent dans les emplois. Puis ils coupent dans quels emplois? Ils coupent souvent dans les emplois, justement.
Mais qu'on aurait coupé
à plus faible
peut-être
revenu.
De toute façon, Martine, je ne sais pas si
pas
je...
nécessairement,
ah oui.
mais je voudrais juste dire... Ouais. Vous avez, parce que vous avez parlé de la banque TD, tout ça.
Mais il y a Métro a dit que aussi...
Il y a la Banque du Canada qui n'est pas un organisme partisan, là. La Banque du Canada, puis c'est pas du monde.
Ça dépend.
Mais le monde qui travaille là-bas...
Julien dirait peut-être d'autres choses.
La Banque du Canada le dit aussi pour l'Ontario. Puis prenons l'épreuve des faits. Moi, j'ai les chiffres, les statistiques là, du marché du travail de l'Ontario, mars 2018. J'ai les ici, là.
Ouais.
Il s'est perdu, depuis un an, 25 000 emplois pour ceux dans les postes là, qui ont un niveau inférieur au diplôme d'études secondaires, puis 30 000 emplois pour les gens qui ont un diplôme d'études secondaires. Fait que ça veut dire quoi?
Oui, mais c'est tu.
C'est ça, c'est pas un global, ça. C'est pas.
Ouais, mais
vous faites bien, Mme Maréchal,
on tire dans le pied de ceux qu'on veut aider.
D'une campagne de peur, là. Parce que justement, le lobby de Mme Hébert, il y a 3 ans, en 2015, en Alberta, là, nous promettait une hécatombe. Votre organisme disait que, bon, à la moitié des gens au salaire minimum vont perdre leur emploi. Ça va être incroyable. Il va y avoir 200 000 pertes d'emploi si vous augmentez le salaire minimum à 15$. Là, eux, depuis 2015, il y a eu une augmentation de 33 % du salaire minimum. Là, c'est bien plus que ce qui se passe en ce moment au Québec. Qu'est-ce qui s'est passé? 40 000 emplois de plus dans le monde des services.
Ben oui.
Qu'est-ce qui s'est passé en Alberta? Le taux de chômage a baissé.
Combien d'emplois de moins chez les travailleurs à faible revenu? C'est ça le problème. Puis tu sais, c'est pas juste moi qui le dis. Des économistes comme Pierre Fortin, comme Luc Godbout, des gens quand même.
On a Pierre-Antoine Harvey qui est économiste.
Je tiens à rappeler que pour les différentes méthodologies d'analyse, effectivement, les modèles dynamiques, il y a 2 ans, le Conseil du patronat a commandé une étude à une firme d'Ameco pour analyser l'impact du salaire minimum à 15$.
Ouais.
On n'en a pas beaucoup entendu parler de cette étude-là parce que les conclusions ne faisaient pas l'affaire du conseil du patronat.
C'est faux.
Les pertes d'emploi, on parlait de moins de 2 % de pertes d'emploi au niveau global pour l'impact du 15$. On parlait d'un taux d'inflation là, qui allait augmenter, une inflation supplémentaire autour de 2 % à ce niveau-là. Donc, les désavantages qu'on propose, on se rend compte qu'à long terme et dans la réalité, ça ne se produit pas. Mm-hmm. Et l'impact des différentes hausses du salaire minimum, que ce soit au Québec, en Ontario ou encore chez nos voisins aux États-Unis, ne s'avère pas aussi négatif qu'on les présente.
Ouais. Nous sommes dans un
modèle qui est effectivement dynamique. Donc, oui, les employeurs s'ajustent, mais les consommateurs aussi. Et on le sait, l'économie, c'est une roue.
Puis plus largement, là, parce que je ne veux pas embarquer dans une bataille de chiffres et d'économistes, mais plus largement, on regarde ça puis on se dit, est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas aussi prendre position comme société? Puis je sais qu'il y a des coûts reliés à ça, mais il y a aussi des avantages. Puis ça va, tu sais, on se plaint qu'il y a des coûts pour les gens qui sont à très faible revenu en matière de santé. Des gens, on parlait d'alimentation, ils n'ont pas les moyens de s'alimenter, ils n'ont pas les moyens d'aller chez le dentiste, ils n'ont pas les moyens de faire des activités physiques, ils n'ont pas les moyens forcément de... Mm-hmm. La vie n'est pas facile au salaire minimum. Non. On s'entend tous là-dessus. On le dit.
Pour tous les bas salariés, c'est un million de personnes au Québec.
Oui, pour tous les bas salariés, même on pourrait dire, tu fais 15$ de l'heure, tu ne roules pas sur l'or, on s'entend. Est-ce qu'on ne devrait pas dire, là, regarde, on est tanné des jobines pas bien payés, puis on veut tous donner on en revient un peu au minimum de revenus garant, de salaire garanti. Comment ça s'appelle?
Salaire viable.
Voilà. Oui, au minimum de revenus garanti, où tu dis, ça prend un minimum de revenus dans la vie pour arriver, pour être moyenne.
On est tous d'accord là-dessus.
Bon, ben, c'est parce qu'il faut faire les potes.
Le mot clé que vous venez de dire, Isabelle, c'est revenu. Et le revenu, c'est pas juste du salaire. D'ailleurs, Luc Godbout...
Oui, mais c'est quoi donc?
C'est tous les transferts fiscaux,
justement. Oui, tu peux donner des crédits d'impôt au monde, mais à un moment donné, les gens veulent du cash, Martine.
Oui, mais c'est ça.
Ils veulent l'argent comptant.
La prime au travail, c'est de l'argent. Le crédit d'impôt, c'est de l'argent qui reste dans tes poches. Luc Godbout l'a calculé. Il a dit qu'en une comparaison interprovinciale, d'ailleurs, qu'il a faite basée sur les salaires de 2016, il disait qu'au Québec, le revenu disponible d'un couple avec 2 enfants et un seul revenu, qui travaille au salaire minimum, il gagne l'équivalent de 41 493 $. C'est 118 % de la mesure qu'on appelle du panier de consommation, là, qui est la mesure qui fait à peu près l'unanimité là, pour mesurer
le seuil de revenu de base. Besoin de base, c'est le seuil qui est utilisé pour l'objectif de l'aide sociale. On est en train de dire qu'une personne qui travaille à temps plein devrait avoir un revenu qui s'approche de la couverture des besoins de base. Donc, manger, se loger et se vêtir. Sortir de la pauvreté, il faut amener un niveau supplémentaire et c'est ce qu'on appelle le revenu viable. Et donc, pour qu'il y ait un incitatif au travail. Tout le monde veut valoriser le travail, mais on refuse de le payer décemment.
Non, c'est pas vrai. Il faut se ramener. Moi, ce que je dis, puis je pense que là-dessus, on est tous d'accord de dire On a-tu intérêt comme société à faire en sorte qu'on a le moins de gens possible qui sont proches du seuil de la pauvreté?
Oui, que la réponse est oui.
Exactement.
Es-tu d'accord avec ça?
Ben oui, bien certain. Voyons donc.
Donc, ça vient avec la responsabilité de...
Comment on le fait?
Le meilleur moyen, c'est d'hausser le salaire minimum.
Ben non, c'est faux.
On ne dit pas d'enlever les crédits d'impôt ou d'enlever l'aide. C'est complémentaire.
Toutes les études démontrent le contraire. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler au Québec, je sais que je radote, là, mais regarde, il faut le rappeler. Le Québec, on est dans une économie de très petites entreprises. Hein? Le trois quarts de nos entreprises ont moins de 10 employés. Fait que c'est sûr que si tu augmentes de 25 % le salaire minimum, là, c'est les plus petits joueurs qui vont écoper, puis eux autres, ils vont devoir prendre des décisions. Et l'emploi n'arrêtera pas de croître dans l'ensemble de l'économie, parce qu'il n'y a pas juste des petits commerces de détail dans l'économie québécoise, il n'y a pas juste des agriculteurs, il n'y a pas juste des producteurs de fraises, il n'y a pas juste qui risquent d'être ceux qui sont plus touchés, il n'y a pas juste des restaurateurs qui seraient ceux qui seraient plus touchés par la mesure du salaire minimum. Cependant, il ne faut pas tuer les emplois dans ces secteurs-là.
Mais c'est peut-être au niveau des DAS qu'il faut peut-être jouer, il faut peut-être proposer quelque chose pour donner de l'air un peu aux entreprises. Oui, on va en parler après la pause, si vous voulez bien. On va revenir avec nos invités, bien sûr. Et vos commentaires, dites-moi si vous estimez que cette hausse du salaire minimum, je vous rappelle que à partir d'aujourd'hui, ce sera 12 $ de l'heure, le salaire minimum au Québec. On s'en va éventuellement vers un salaire d'ici quelques années qui va être à 15 $ de l'heure. Est-ce que vous craignez une hausse du coût de la vie? Est-ce que vous pensez que vous, qui gagnez peut-être pas le salaire minimum, qui gagnez un salaire beaucoup plus élevé, par exemple, le travailleur moyen québécois, il n'est pas payé au salaire minimum. Ça touche 220 000-230 000 Québécois, par exemple. Mais c'est sûr que 13 $, 14 $, 15 $ de l'heure en ce moment, si c'est ce que vous gagnez, c'est pas non plus la panacée. Donc, c'est sûr que ça va probablement forcer un peu tout le monde à se réajuster. Est-ce que vous craignez que ça augmente le coût de tous les biens et services par ricochet? 514-790-9850. 1-866-790-9850 pour répondre à notre question. À tout de suite, tout le monde. Alors, est-ce que le salaire minimum qui passe à 12 $ de l'heure à partir d'aujourd'hui risque de créer une hausse sur le coût de la vie? Et bon, évidemment, vous allez me dire, poser la question, c'est quasiment y répondre, Isabelle, allô? Oui, mais est-ce que c'est dramatique, mettons, qu'il y aurait une hausse du coût de la vie? Est-ce que c'est une hausse qu'on pourrait pas supporter tous ensemble, collectivement? Je pose la question à Serge. D'abord, bonjour.
Bonjour. En fait, moi, ce que je crois, c'est que ça va pénaliser notamment ceux qui sont déjà à 15 $ de l'heure, qui gagnent légèrement au-dessus du salaire minimum. Donc, quand il va y avoir une hausse du salaire minimum à 15 $ ces gens-là n'auront pas d'augmentation. Donc, ils vont passer d'un salaire légèrement au-dessus au salaire minimum. Et tout le train de vie qu'ils ont avec va écoper parce que là, ils n'auront plus le pouvoir d'achat parce que il n'y a pas une entreprise qui va accepter de baisser sa marge de profit. Donc, ils vont augmenter les prix. Mm. Et par la semaine, je pense que par ricochet, c'est pas les gens qui gagnent 80 000 $ par année. Là. C'est tous les gens qui sont déjà à faible revenu. Pas sous le seuil de la pauvreté, mais à faible revenu, qui vont écoper. Et tous ceux qui... là, on se bat contre des joueurs à l'international. Donc, tous ceux qui exportent, qui ont des petites usines, eux, ça va faire mal. Les agriculteurs, mettons que les fraises vont arriver encore plus de la Californie que du Québec, ça c'est sûr. Donc, moi, c'est ce que je crois. C'est mon point de vue.
OK. Donc, vous dites ça va forcément avoir une pression à la hausse sur le salaire des autres qui font en ce moment, justement, 12, 13, 14 $ de l'heure, parce qu'ils vont se trouver à baisser de salaire par rapport à ceux qu'on vient d'augmenter aujourd'hui, c'est ça?
Et voilà. Ouais. Puis en même temps, par la bande, il n'y a pas personne qui est cantonné à ce salaire-là minimum. Je veux dire, il y a différents barreaux dans l'échelle, là. Et je pense pas que c'est en donnant plus nécessairement sans avoir plus en retour. Je veux dire, l'économie, ça fonctionne pas comme ça. On voudrait tous faire le bien, on voudrait tous que les gens aient pourquoi pas 20 $ de l'heure.
Exact.
Sauf que malheureusement, dans la vraie vie, ça ne fonctionne pas. Tu sais, je sais que c'est un extrême, mais je crois qu'Adam Smith, quelque part, là, faudrait peut-être relire un peu ça puis pour voir ce que c'est l'économie de marché, comment ça fonctionne.
Oui, mais l'économie de marché fait beaucoup de dégâts aussi. Là. C'est...
Oui, je le crois, sauf qu'il ne faut pas en faire davantage en intervenant de mauvaise façon.
Mais il y a une œuvre sociale. Enfin, bon.
Sur la problématique.
Oui. Merci beaucoup, Serge. En tout cas, c'est intéressant.
Merci beaucoup. Puis je pense
Pierre-Antoine Harvey, économiste.
Votre témoignage est intéressant parce qu'effectivement,
il y a raison,
on a dans les milieux à bas salaire cette réaction-là où les gens à 15 et 10, là, ils se disent « Oui, mais là, moi, je vais comme me retrouver au salaire minimum. » D'une part, il faut voir que quand tu es à 15 et 10, si le salaire minimum est à 15, tu perds pas d'argent.
Mais j'ai un cas concret.
Et la montée du salaire minimum va te donner un appui pour pouvoir négocier un meilleur salaire. Et ce qu'on a remarqué dans les autres expériences, c'est que normalement, là, jusqu'à autour de 25 % au-dessus du nouveau salaire minimum, ça a un impact, on appelle l'effet de percolation. Donc, on peut penser que les gens jusqu'à 18-19 $ de l'heure vont profiter de l'augmentation du salaire minimum.
Et c'est là où Marcel revient dans la game en disant, j'ai un cas concret. J'ai Henri qui m'écrit, il dit, moi, je fais quoi avec ma caissière qui travaille super bien et que je venais déjà d'augmenter à 12-10 $ J'y avais donné 12 et 10, on comprend que c'était pour lui montrer qu'elle était pour salaire minimum, elle avait un statut un peu mieux. Si mon autre caissier qui est sur son set la journée qui avait un service pitoyable fait maintenant 12 $ minimum, parce que donc j'ai pas le choix, faut que j'y donne 12 piastres. La réalité, c'est que il y a des employés qui méritent pas 12 piastres. Ça, c'est lui qui dit ça, Henri. Il dit, ceux qui travaillent bien vont se démotiver à moins, Henri, que vous acceptiez de payer plus votre caissière qui travaille super bien. Puis peut-être que si vous n'êtes pas contente du caissier qui se pogne le beigne, ben peut-être que vous pourriez lui dire merci, ben, bye aussi. Là.
En fait,
mais tu sais, c'est ça, là. Qu'est-ce qu'on répond là-dessus? J'aimerais entendre Julien là-dessus.
Bien payer le monde, là, ça permet d'avoir un meilleur taux de rétention.
Mais qu'est-ce que vous dites à Henri, qui est patron, qui a des caissiers, il y a peut-être une petite épicerie, là?
Mais moi, je lui dis qu'il faut qu'il identifie son vrai ennemi. Son vrai ennemi, là, c'est pas le salaire de ses employés, c'est pas les conditions de travail de ses employés. C'est, par exemple, les grandes compagnies qui lui font la compétition dans son propre quartier. Les gens qui le menacent de faire faillite ou de l'acheter.
Julien, quand même, qui dirait, voici mon ennemi, ça ne réglera pas sa vie dans le quotidien par rapport à ses travailleurs.
Nous, ce qu'on propose, par exemple, c'est que si, mettons, il y avait un pouvoir au niveau municipal ou provincial ou fédéral qui avait un peu de courage, qui était capable d'aller chercher l'argent là où aller, c'est-à-dire soit dans les banques ou les grandes compagnies, il pourrait subventionner ces petites PME-là qui prouveraient, chiffre à l'appui, qu'effectivement, ils n'ont pas les sous pour payer les gens 15 heures de l'heure. Comme ça, tout le monde serait gagnant.
Oui, mais vous savez très bien que la journée où ils vont aller être... D'abord, c'est pas fait. Puis deuxièmement, s'ils étaient capables d'aller chercher, si les gouvernements étaient capables de mettre la main sur ceux qui se servent des paradis fiscaux pour vraiment faire de l'évasion fiscale, l'argent, s'il revenait, ce ne serait pas pour le donner aux petits épiciers pour les aider à payer une augmentation de salaire
pas avec les partis des patrons qu'on a là, effectivement. Il y a juste Québec solidaire qui est dans sa plateforme.
Regardez ce qu'on fait au Québec. On va en parler demain. On donne des milliards aux médecins. Pensez-vous qu'on pourrait pas décider plutôt de donner un... On aurait pu décider. Voilà. C'est tout des choix, ça.
Voilà.
De dire, on va prendre un milliard puis on va le donner. Oui, mais on pourrait décider fait, ça. Oui. Moi, je voterais pour ça. Là.
Ben, c'est ça. Mais ça serait un parti qui représente les intérêts des travailleurs et des travailleuses.
OK, ça, mais c'est pas ça, la vie. Là. On devrait pas... On est comme ça, des travailleurs, travailleuses.
Ça, c'est une alternative.
Je suis Québec solidaire.
Je pense que vous êtes clairement Québec solidaire, mais faut rappeler aussi.
Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense à Marie-Pone
pas dans votre patate.
Faut rappeler aussi qu'une autre étude de l'IRIS démontrait qu'une augmentation de salaire minimum à 15 $ ça rapportait entre 600 et 900 millions de dollars dans les poches du gouvernement du Québec pour deux raisons. A, les transferts à ces employés-là vont diminuer. Et B, ben, ces employés-là commencent à contribuer à la caisse commune en payant un petit peu plus d'impôts et des taxes à la consommation. C'est proche d'un milliard de dollars de plus pour le gouvernement qui peut maintenant venir en aide aux secteurs très ciblés qui auront de la difficulté à absorber le salaire de 15 $ Un commerce local, lui, il est capable de profiter de la hausse du salaire. Ceux qui sont en exportation, c'est un autre sujet.
Oui, surtout avec les taux de change. Puis, bon, on revient après la pause avec vos commentaires. 514-790-9850 et sans frais partout au Québec. Vous pouvez nous joindre en faisant le 1-866-790-9850. Je vous demande si vous pensez qu'il y aura un impact du salaire minimum qui passe à 12 $ aujourd'hui, hein, cette journée du 1er mai, fête du travailleur. Est-ce que c'est un impact sur le coût de la vie qui va vous empêcher, vous, de profiter de certains biens et services parce que ça risque d'avoir une pression à la hausse sur beaucoup de biens et de services? Est-ce que vous estimez que c'est trop, qu'on y va trop largement avec les travailleurs à faible revenu? Dites-moi tout ça après la pause. Est-ce que l'augmentation du salaire minimum à 12 $ de l'heure aujourd'hui va créer une pression à la hausse sur à peu près tout, biens, services, salaire des autres travailleurs qui vont dire, ben là, regarde, moi, si l'autre à côté fait 12, peux-tu me donner 15, 16, 18? Et vous en pensez quoi, Michel?
Moi, je suis MBA, madame. J'ai pas le cœur tendre.
Ben là, il y a des... moi, je suis MBA, puis j'ai le cœur tendre.
Ben moi, je ne l'ai pas.
Oh, ben, où est-ce que vous avez fait votre cours?
À McGill.
Ah, moi, c'est au HSC. On est plus gentils.
c'est certain que ça serait inflationniste. C'est certain que ce serait inflationniste. Mais ça serait une bonne chose que ce soit inflationniste, parce que le problème qu'on a actuellement, c'est pas un problème d'inflation, c'est un problème de déflation. Le taux de la Banque du Canada, là, en termes réels, présentement, il est en bas de zéro. Il est négatif. Ça nous prendrait une couple de pourcents de plus d'inflation. Sinon, à la première secousse économique qu'on va avoir, on va tomber en déflation. Puis demander aux Japonais s'ils aiment ça, ça fait 20 ans qu'ils sont là-dedans.
OK, ben je ne veux pas signer un MBA de McGill, là, mais avec respect, on n'est pas du tout en déflation en ce moment. Là. Moi, j'ai deux économistes.
On n'est pas loin de l'être. En termes réels, là, la pression qui est exercée actuellement, c'est pas une pression inflationniste, là, c'est une pression déflationniste.
C'est-à-dire que, ouais, c'est fou.
Ben, en ce moment, l'inflation est à 1,5-2%, fait que c'est ça. Là. Bon. Merci, Michel. On a Martin. Bonjour, Martin.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Je voulais parler l'effet que ça pourrait faire sur l'exportation.
Ouais.
Je n'avais pas entendu parler. Je crois que j'ai un de vos invités là, avant la publicité. Là,
ouais.
Il a mentionné exportation.
Ouais.
Ben, en tout cas, la Taïwan, le Japon, la Chine vont être contents de ça. Peut-être pas le 12 $ de l'heure, là, mais le 15 $ de l'heure, moi, je ne serais pas augmenté. C'est sûr que mon pain demain va être plus cher. La serveuse va être plus chère. Ma coiffeuse, en fait, tout ce que je consomme, les gens qui me servent, c'est pas mal tous des gens qui sont payés au salaire minimum. Moi, je suis pas payé au salaire minimum, fait que mes biens et services vont augmenter, mais pas mon salaire. Et puis, comme je viens de dire, pour ce qui est de l'exportation, ben on va, excusez le mauvais jeu de mots, mais encore manger nos bas, parce qu'il y aura des pays qui vont être capables de faire du textile encore moins cher que nous, et puis ça va affecter notre exportation.
Oui, merci, Martin. Effectivement, mais en même temps, en ce moment même, je veux dire, la bataille vis-à-vis des pays asiatiques, on l'a perdue. Je lisais dernièrement qu'ils ont augmenté le salaire des femmes qui travaillent dans les usines au Bangladesh à la suite, vous savez, de l'effondrement de cet immeuble où il y a eu 5 000 personnes qui sont mortes ou qui ont été mortes ou blessées. C'est épouvantable. Soudainement, on a allumé là, que, oh mon Dieu, il y a des femmes qui travaillaient pour 42 $ par mois. C'est comme une pièce, c'est 10 par jour. On les a augmentées, elles font 83 $ par mois. C'est la richesse, bien sûr. Je veux dire, par rapport à ça, on l'a perdu, la bataille.
Oui, mais faut, on n'exporte pas juste, on n'est pas juste en compétition avec ces pays-là. Il faut bien se dire aussi, avec tous les accords internationaux qu'on signe et tout ça, je pense qu'on a intérêt à faire en sorte que nos entreprises soient en mesure de demeurer compétitives sur le marché international dans tous les domaines.
Et c'est là que les gouvernements doivent faire des programmes.
Ben, c'est-à-dire que faire des programmes, oui, ou y aller de façon prudente avec les augmentations de salaire minimum. Parce que moi, j'ai jamais dit que le salaire minimum ne serait jamais 15 $, là. Je veux dire, un jour, à un moment donné, dans quelques années, on va y arriver. C'est la façon de le faire. Puis c'est qu'est-ce faut voir les effets sur l'économie du Québec dans son ensemble, mais aussi dans certains secteurs qui risquent d'être plus affectés que d'autres. On les a
mentionnés. Moi, je suis sûre qu'en coup de santé, Martine, je suis sûre qu'on n'arrive pas au même chiffre.
Il y a prudence, oui, en coup
de santé. Moi, je vous jure, mais on sait là, les gens qui sont sous le seuil, qui font 400 $. Ben oui, mais il faut que tu calcules ça pareil.
Non, c'est-à-dire que ce que je dis, c'est qu'il va y avoir des impacts. On le dans certains secteurs d'activité. Alors, c'est sûr que si le gouvernement va de l'avant avec une proposition comme ça, il va falloir qu'il mette en place des mécanismes pour compenser les petits commerces, par exemple, qui vont être plus affectés, les producteurs. Mais
comme quoi, quel genre
de... Il faut faire attention. D'aider. Là, ça me fait surprendre d'entendre quelqu'un
Julien
du FCI
parler
de l'aide gouvernementale. Là. Moi, je suis d'accord, mais il y a des secteurs précis qu'il faut cibler, comme les secteurs à exportation. Les secteurs de commerce, de détail ou de restauration, eux sont dans un cercle là, où l'argent, leur salaire là, devient des revenus
l'argent
pour leurs consommateurs. Devient des revenus pour leurs consommateurs, pour les consommateurs. Et ça fait un cercle économique. Il y a peut-être 6% des travailleurs et travailleuses à salaire minimum qui sont dans le secteur industriel. C'est très minime. Là. On fera pas une politique du salaire minimum pour le secteur manufacturier. Est-ce qu'il y aura place pour une aide à ces secteurs-là? Peut-être, et on l'a dit, une autre étude...
Des allègements fiscaux. Des allègements fiscaux pour contrebalancer, parce que
peut-être,
il faut dire que les employeurs...
Mais les allègements fiscaux aussi sont mur à mur. Donc, c'est l'ensemble des employeurs. Moi, je pense qu'il faut des mesures ciblées pour les secteurs touchés. Est-ce que c'est l'agriculture? Est-ce que c'est les exportateurs? Mais la vaste majorité des entreprises au salaire minimum ne sont pas dans une situation de concurrence internationale. Leurs clients, c'est monsieur, madame, tout le monde qui travaillent ici et qui reçoivent un salaire qui sera
en concurrence avec des multinationales, par exemple.
Julien, très rapidement, puis on va parler à Dominique, un auditeur.
Dans les faits, là, à Seattle, ils sont rendus à 15 $ pour les entreprises de plus de 500 personnes. Tu sais, puis ils ont augmenté le salaire minimum depuis 2015 sans arrêt. Est-ce qu'il y a eu une influence sur les prix à l'épicerie? Non. Est-ce qu'il y a eu une influence sur les prix dans les restaurants? Non.
OK, attends, ça, là, ça, tu disais...
Ça, c'est des études universitaires.
Augmentation du salaire minimum, mais seulement à partir des entreprises de 500 travailleurs et plus?
Parce qu'il y a un phase-in qui est plus rapide pour les entreprises à 500 employés et plus, qui est plus lent pour les entreprises, les PME,
mais
si on veut.
C'est intéressant, ça, je trouve.
Non, mais
c'est le rapport de force
qui
en a résulté à Seattle. Ouais. En Alberta, même chose, il augmente le salaire minimum depuis 2015, ça fait 3 ans. Les restaurants ne sont jamais aussi bien portés. Moi, je veux juste souligner un fait là où on est dans un discours de deux poids, deux mesures. Là. À tous les ans, là, on entend le fait que les PDG des grandes entreprises ont vu leur salaire augmenter de 10, 15, 20 %. Bon, ça, c'est des millions et des millions et des millions de dollars. Mais jamais on se dit « Hey, est-ce que ça va avoir un impact sur le hausse de coût de la vie? Est-ce que ça va faire augmenter le coût de l'épicerie que genre PDG de machin chouette soit payé 1 milliard maintenant? » Non.
Faut pas mélanger
là, maintenant,
les
quand on
oranges,
dit
là.
On veut donner une vie décente aux gens, on veut juste pas que les gens soient pauvres, et hey, là, on est dans un débat de société pendant 3 ans, c'est la catastrophe. En quelque part, là, les discours comme ceux de Mme Hébert, là, ils favorisent le 1%, puis ils favorisent les intérêts de patrons qui veulent continuer de donner des salaires de misère.
Allez dire ça aux petits commerçants que je représente, moi, là qui en arrache.
80% de ses membres, c'est quand même des
petits commerçants, des petites entreprises, là, je m'excuse. Puis il ne faut pas mélanger des pommes avec des patates. Hein.
Quand
on parle de Seattle, là, salaire moyen... Le salaire horaire moyen là, dans l'économie de Seattle est très différent d'ici, d'ailleurs.
Mais c'est ça qu'il faut dire aux gens.
Ben, c'est ça. C'est très différent d'ici. Donc, eux autres, c'est sûr qu'ils ont eu un rattrapage parce qu'ils n'étaient même pas à 50 %. Le salaire minimum, il n'était même pas à 50 % du salaire horaire moyen. Fait que c'est sûr que dans des économies comme ça, même chose au niveau de certaines autres provinces. Par contre, au Québec, si on augmentait le salaire minimum à 15 $, il deviendrait à beaucoup plus élevé à plus que 50 %. Et c'est là où on voit des effets. Tu sais, il faut faire attention aux grandes généralités, parce que c'était si magique que ça, pourquoi faire qu'on ne l'a pas fait avant?
En 2008-2010, il y a eu une augmentation de 12 % du salaire minimum au Québec. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un taux de fermeture de PME plus bas qu'avant.
57 % des faillites à l'échelle canadienne sont au Québec. Fait qu'on peut en parler des faillites.
Mais
si
c'est peut-être pas à cause de la minimum.
Non, mais c'est à cause de l'ensemble des charges.
C'est à cause des charges. Ça, c'est les gouvernements, Martine. Ouais. J'ai Mélanie qui me dit, moi, je suis allée à l'école pour faire un métier. Avec la hausse, je me retrouve à être payée au salaire minimum plus 75 cents. Elle fait 12,75. On a Dominique avec nous. Bonjour, Dominique. Vous en pensez quoi de tout ça?
Bien, c'est sûr qu'une hausse salaire minimum, ça va augmenter les prix de consommation un petit peu, mais c'est pas parce qu'une hausse de 20 % du salaire minimum que les prix vont augmenter de 20 %. C'est pas 100 % du coût dans un produit,
non,
le salaire. Tu sais, t'as le coût de fabrication en Chine, que lui, ça changera pas, le transport maritime. Bon, maintenant, ceux qui sont payés au salaire minimum, c'est des entreprises de services directs à la population. Tu sais, ça va être le commis chez Walmart, ça va être le serveur au restaurant. Moi, je n'irai pas acheter ma pointe de pizza au Mexique parce qu'elle est moins chère.
Mm-hmm.
Alors, toutes ces entreprises-là seront toutes sur le même pied.
À risque d'être moins bonne. Ouais.
Dernier argument moral, si ton modèle d'affaires ne te permet pas de payer décemment tes employés, ferme les portes.
Oui, exact.
Ben, les gens payent décemment. Moi, je m'excuse. Il faut faire attention. Je ne suis pas d'accord avec le fait de dire que les petits employeurs ne payent pas décemment leurs employés. D'ailleurs, le salaire horaire moyen dans les plus petites entreprises là, est autour de 19 $ de l'heure. Ce qu'on dit, c'est que si on les hausses marquées du salaire minimum, ça va affecter particulièrement les plus petites entreprises parce que à cause de l'effet domino, cascade dont on parlait de tantôt.
Beaucoup de femmes immigrées dans les shops de textiles dans le nord de la ville encore.
Ben oui,
mais voilà, qu'on les augmente à 12 $, sincèrement. Les femmes qui souvent là sont
ça, c'est un
pas
autre
des
débat.
Milieux fins là.
Non, puis il y a des employeurs qui abusent, puis ça on doit les dénoncer, puis on doit lutter contre ça, puis on est les premiers à le faire parce que c'est de la concurrence déloyale anyways pour les employeurs qui sont des bons employeurs puis qui tentent de payer leurs employés décemment puis qui respectent.
On va revenir après la pause. Bon, on a un employeur avec nous. Bonjour Martin, vous en pensez quoi de toute notre discussion jusqu'à maintenant sur le salaire minimum?
Bonjour, bon matin à tous. Ça m'interpelle grandement parce que j'ai une entreprise, j'ai une trentaine d'employés au Québec. J'ai aucun de mes employés qui est au salaire minimum. Mon salaire moyen, je voudrais que ça tourne autour de 18-20 $ de l'heure.
Oui.
Mais chose certaine, si on augmente à 15 $ de l'heure, il va y avoir une poussée à l'inflation sur les salaires. Donc, j'aurai pas le choix d'augmenter mes employés parce que, je sais pas, il faut garder une certaine distance avec ce salaire minimum-là. J'ai l'impression que je devrais augmenter mes salaires à mes employés. C'est sûr que si on a une aide au niveau des DAS, au niveau des impôts d'entreprise, ça peut aider.
Ouais.
Mais mon entreprise est en croissance, j'engage beaucoup, puis je me suis fait un devoir de jamais payer un employé au salaire minimum. Je veux que mes employés gagnent bien leur vie, je veux qu'ils gagnent de l'argent. Puis ça va m'assurer une certaine rétention aussi dans mon entreprise, en bien payant les employés.
C'est ça. Et c'est intéressant parce que, dans le fond, ce que vous dites, c'est aussi c'est un peu ce qu'on disait pendant la pause avec mes invités, c'est que ce qu'il faut dire aussi aux gens, si tu veux pas être payé 15$ de l'heure, si tu veux pas avoir des salaires qui se rapproche du salaire minimum, il faut encourager les gens à aller travailler, à être plus éduqués, à avoir des formations spécialisées. Et puis, je parle pas de gens qui ont des bacs universitaires. Là.
Tout à fait.
Il y a des programmes, on le sait, au Québec, il nous manque certains dans certains secteurs d'emploi. Ils payent très, très bien. Là. Tu peux faire du 80, 85, 100 000 piastres dans des jobs même de technique... dans l'industrie minière,
absolument,
dans l'industrie des ressources naturelles, c'est en environnement.
Quand on laisse ça aux lois du marché,
Julien Daigneau.
En ce moment, là, y a les gens qui sont au salaire minimum ou les bas salariés, là, ils sont surdiplômés. Là. T'as des gens qui ont des bacs puis ils ont des maîtrises qui sont au salaire minimum parce qu'ils ne trouvent rien d'autre.
Exact. C'est
dans, le problème, c'est comment on gère l'offre d'emploi. C'est sûr que si on lève ça, on laisse ça complètement aux grandes compagnies puis au marché, ce qui va ressortir, ben, c'est les jobs qui sont rentables pour faire un max de profit.
Ouais.
Okay. Mais aussi, je pense qu'il faut placer dans le contexte, là, où, effectivement, les jobs de qualité, je pense qu'il faut, viser le développement des jobs de qualité. Et on est dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, hein. Ça, faut le rappeler. Et je pense que la FCEI est tout à fait au courant de la problématique dans l'ensemble des régions. Et si on regarde les secteurs où il y a un manque de main-d'œuvre, une grande majorité de ces secteurs-là, c'est le secteur à bas salaire.
Ouais.
Restauration, commerce
de détail.
Alors, je comprends pas comment on peut à la fois craindre des pertes d'emploi dans ces secteurs-là et en même temps dire on manque de main-d'œuvre. Donc, faut voir les effets globaux. On est dans un contexte où il y a une pénurie de main-d'œuvre. La loi du marché, on parlait d'Adam Smith tout à l'heure, là, devrait imposer une augmentation de salaire minimum.
Ouais.
Mais en ce moment, les employeurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils se basent sur la norme.
Là.
Aucun employeur a envie de payer un salaire.
Il faut laisser la flexibilité justement aux employeurs pour être capable de garder leurs meilleurs
Étienne,
employés.
J'ai Étienne, qui est un propriétaire d'une PME. Il dit « La hausse du salaire minimum me terrifie. Nous travaillons à garder la tête hors de l'eau. Aucun salaire ne dépasse 14$ chez moi, le mien compris. Qui pourrait nous rassurer en nous disant autre chose que les gens vont dépenser plus chez vous? C'est une hypothèse et non un fait. »
Exact.
Est-ce qu'on peut le rassurer, Étienne, ici?
Ben, écoutez, c'est,
il dit, j'ai bien peur que plusieurs d'entre nous n'aient d'autre choix que de fermer.
Ça, c'est la réalité du chef de petite entreprise qui a, comme je disais tantôt, une marge
de manœuvre
qui est très restreinte.
Mais il ne faut pas être
terrifié non plus, Martine. Non, mais je comprends qu'il soit terrifié à entendre les gens dire que, à entendre certaines personnes dire qu'il n'y aura pas de conséquences sur les petites entreprises si le salaire minimum augmente à 15$ puis que tout va être beau. Je comprends parce que, moi d'ailleurs, je repose la question, là, si c'est si magique que ça, pourquoi qu'on se limiterait à 15$? De un, puis de deux, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait avant? Voyons donc, il y a du monde intelligent qui ont passé avant nous autres, puis qui aurait mis ça de l'avant si ça avait
été si magique
que ça. J'ai
Sonia qui me dit, oh mon Dieu, vos invités, sauf Mme Hébert, vivent dans un pays d'Alice au pays des merveilles. Je ne peux pas croire ce que j'entends. Justin qui dit, j'ai un DEC, ma blonde a un diplôme universitaire, je travaille dans l'aéronautique, elle dans le domaine communautaire, je fais au moins 20 000 de plus qu'elle avec seulement 4 ans d'expérience. C'est fou. Donc, évidemment, là, on voit la différence entre les niveaux de scolarité. Il y a quelqu'un qui m'écrit aussi, qui est inquiet du genre... Jonathan, je me demande bien si l'augmentation du salaire va faire en sorte que les employés à salaire minimum soient moins brûlés après seulement 35 heures par semaine. En tant que travailleur autonome, quand je regarde la génération qui s'en vient, c'est pas les plus travaillants qui disent... Bon. Ça, c'est un autre débat sur sommes-nous assez productifs. Vite, vite, on va parler à Dominique. Tiens, bonjour Dominique, rapidement, avant de conclure notre sujet, vous en pensez quoi?
Bonjour Madame Maréchal. Moi, j'ai un DEP, j'ai gagné depuis 15 ans et puis j'ai 17$ de l'heure.
Ouais.
Mon fils a pris sa formation de gardien averti puis il leur demande de demander le salaire minimum.
Ouais.
Donc, si je veux faire garder mon fils... j'y donne 12$. Si je calcule, je vais travailler pour 5$.
Ouais.
C'est parce que là, à un moment donné, c'est jusqu'où ça va aller. Tantôt, mais qu'il y a 15$ de l'heure, moi, je vais faire 2$, je vais rester chez nous. Ça n'encourage pas ceux qui ont légèrement plus que le salaire minimum à faire quoi que ce soit. Ça nous décourage totalement.
Merci, Pierre-Antoine Harvé, là-dessus. C'est là où la pression des salaires va être vers la hausse, forcément, si on veut garder notre monde.
Oui, effectivement.
Dans les entreprises, écoutez, ça va être ça.
Et ça c'est un phénomène documenté. La pression à la hausse, elle ne va pas sur l'ensemble des salaires. Là, on parle, je l'ai dit tout à l'heure, là, autour
des salaires de 20 $ et moins.
Autour 20 $ et moins.
Ouais.
Mais là, c'est
dans certains secteurs.
Faut quand même penser que c'est une mesure positive pour plus d'1 million de personnes au Québec.
Ouais. Bon, mais on va partir de ça.
Ça reste à voir.
On va voir ça, Martine. Hey,
méfions-nous des mirages.
C'était fort intéressant. Martine Hébert de la FCEI, Julien Desgnaux, porte-parole pour la campagne 15+, Pierre-Antoine Hervé, chercheur associé à l'IRIS. Merci d'avoir été là tous les trois. Nous, on va parler de la température tout de suite après les nouvelles. Restez là, tout le monde.